Julien, Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis enchanté de vous retrouver pour Culture Média. Au menu, tous les médias, toutes les formes de culture. Vous retrouverez évidemment Hélène Manarino et son portrait inattendu. Ce sera aux alentours de 10h20. Mais avant cela, Bertrand Chamerois pour son écran de veille, puis Eva Rock pour le zapping du lendemain. Dans quelques instants, le journal des médias et les audiences. Notre info média, Europe 1, se mobilise toute cette semaine pour venir en aide à ceux qui sont particulièrement touchés par la crise sanitaire et économique. Les jeunes et les étudiants en particulier, on en parle. Et de bien d'autres choses encore avec Hugo Travers, journaliste. Il a créé le média en ligne Hugo Décrypte sur les réseaux YouTube, Instagram, TikTok, Twitch, entre autres. Près de 2,5 millions de followers, une sacrée caisse de résonance. Puis nos invités, Arnaud Poivre d'Arvor, oui, le fils de, pour le retour de Non Élucidé, l'émission de grandes affaires criminelles sur RMC Story. Elle avait démarré sur France 2 et c'est assez rare pour être signalé, une émission de faits divers, en l'occurrence un meurtre, dans laquelle même le suspect prend la parole. Enfin, la chanteuse Julie Zenati pour son nouvel album Refaire danser les fleurs. Ce titre a un sens, elle a bazardé sa maison de disques et elle produit elle-même son projet et ça sort maintenant. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Luce Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
On va vous entendre dans quelques instants pour les audiences. Antoine Janton, bonjour.
Bonjour Philippe.
C'est le journal des médias avec vous. Au sommaire ce matin, Antoine.
La mort d'un grand homme de lettres, grand scénariste également, un phénomène sous-estimé et un documentaire particulièrement fort.
Mais d'abord, un phénomène qui n'est pas sous-estimé, les audiences avec vous Louise. Qu'est-ce que les Français ont regardé à la télé hier soir?
Ce qu'on attendait ce matin, c'était le score de la nouvelle mini-série de France 2. On en parlait hier avec Thomas Olivares qui était notre invité. C'est un bon lancement, il résiste bien face à TF1 et M6, mais quand même troisième avec 3 200 000 téléspectateurs, une part d'audience autour de 14%. Le leader, c'est TF1 avec Je te promets, adaptation française de This Is Us, 4 400 000 téléspectateurs. 18,4% de part d'audience, presque 1 million de moins que la semaine dernière, quand même à noter. Et ensuite, c'est M6 qui est en bonne forme avec L'amour est dans le pré, 3 500 000 téléspectateurs, une part d'audience autour de 15%.
Et puis un mot d'une audience qu'on n'avait pas encore hier, celle du Super Bowl, évidemment, c'était au milieu de la nuit, la finale du championnat de football américain.
Oui, c'était la première diffusion sur la chaîne L'Équipe, et bien c'est un joli succès, près de 400 000 téléspectateurs, un record historique pour une diffusion sur une chaîne de la TNT, hein, pas un record pour l'événement. C'est TF1 qui garde le record historique. C'est tout de même la chaîne la plus regardée de la télévision pendant la rencontre. Et plus important pour la chaîne L'Équipe, c'est un record historique sur leur cible commerciale, les hommes âgés de 25 à 49 ans, 30,3%.
Et j'ajoute à propos de sport et d'audience que dimanche soir, Canal+ a battu son record depuis 2019 avec OM-PSG. Mediapro s'est terminé, Canal a pris la relève, 1 710 000 téléspectateurs.
Culture Média.
Antoine Janton, on passe désormais avec vous au journal des médias qui débute hélas par une triste nouvelle, la disparition d'un des plus grands scénaristes français.
Jean-Claude Carrière, formidable conteur, il avait 89 ans, il avait écrit de très nombreux et de très grands films, on va y revenir dans quelques instants. Il avait aussi écrit pour la télévision, il avait notamment adapté son livre La Controverse de Valladolid. Ce qu'on sait moins encore, c'est qu'il avait été dessinateur de presse quand il avait 20 ans, il l'avait raconté à Isabelle Morizet sur Europe 1 en 2012.
Je vendais des dessins un samedi soir et à France Dimanche.
Qui étaient deux journaux très populaires.
On allait déposer un petit dossier avec des dessins sur une table. Oui, et on allait, 3 jours après, les rechercher. On les comptait pour savoir si on vous en avait pris. Oui. Et j'ai découvert quelquefois, j'ai surpris un ou deux dessinateurs illustres en train de fouiller dans mon dossier.
Oui. On ne connaît pas leur nom. Même si le dessin a toujours compté pour lui, c'est l'écriture que préfère Jean-Claude Carrière. Il écrit des romans, des pièces de théâtre et surtout des films. Donc, Le journal d'une femme de chambre et Belle de jour de Louise Bounouel, La piscine et Borsalino de Jacques Deray. Il travaille aussi avec Louis Malle, Volker Schlöndorff, Jean-Luc Godard et Jean-Paul Rapneau pour Cyrano de Bergerac. Pour ce film, il écrit des dizaines d'alexandrins à la manière d'Edmond Rostand et il en vient même, sans le savoir, à penser et à écrire comme lui.
Il y a une scène dans Cher Haguenau où Cyrano vient d'être profondément déçu par Roxane qui en aime un autre. Il se relève fanfaron et il dit « Voici les cadets de Gascogne de Carbon de Casteljaloux ». On s'est dit avec Carbon, c'est pas possible qu'un homme déprimé dise ça. On va le faire dire, alors je lui ai dit « C'est pas normal non plus que ce soit un simple soldat. C'est au capitaine de dire ça. À oui. Carbon oui. de dire. Alors, j'ai donné la réplique à Carbon. Il se trompe en la disant et Cyrano la reprend. C'est comme ça dans le film. À la fin, on a fait lire le scénario à un spécialiste de Rostand. Il nous a dit, d'où est venue cette idée? Ben, je l'ai dit. Vous savez que Rostand l'avait écrit comme ça, en donnant la réplique à Carbon.
Ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon, de Casteljaloux, menteurs et bretteurs, prêteurs et menteurs, sans vergogne, tous plus nobles que... Plus nobles que des filous, parlant baston.
Parlant blason, lambelle, bastogne, ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon, de Casteljaloux.
Gérard Depardieu dans Cyrano de Bergerac, l'un des 70 films écrits par Jean-Claude Carrière, décédé cette nuit à l'âge de 89 ans.
Une nouvelle campagne choc du gouvernement sur nos écrans, sur vos écrans à partir d'aujourd'hui.
On y voit une famille réunie autour d'une table. Une petite fille pose une question à ses parents, un peu gênée. C'est son frère qui joue sur une tablette qui y répond et choque les deux adultes.
Comment on fait les bébés ?
C'est simple. La femme, elle a quatre pattes, l'homme tire les cheveux et elle crie très fort.
À 12 ans, près d'un enfant sur trois a déjà été exposé à du contenu pornographique. Toutes les solutions de contrôle parental et conseils sur jeprotègemonenfant.gouv.fr.
Voilà, c'est un spot pour promouvoir une nouvelle plateforme, donc un site internet lancé aujourd'hui par le gouvernement pour lutter contre l'exposition des mineurs à la pornographie en ligne. Il s'agit d'abord de sensibiliser ces parents qui ne se rendent pas forcément compte du phénomène. Il s'agit aussi de les aider, de leur donner des solutions très concrètes. Une initiative nécessaire selon Adrien Taquet, le secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles. L'exposition à la pornographie, dit-il, a un impact très négatif sur les enfants.
Pour un jeune enfant, c'est une forme de violence. En fait, le cerveau d'un enfant de 11-12 ans n'est pas encore suffisamment développé d'un point de vue cognitif, émotionnel, pour absorber ce type d'image. Et puis par ailleurs, le porno véhicule tout de même un certain nombre d'images dans la relation de l'homme à la femme, préceptes de domination, qui vont façonner l'identité sexuelle des enfants. Et ils nous le disent d'ailleurs, hein, près de la moitié d'entre eux disent d'une part qu'ils ont été choqués par les images qu'ils ont vues et que c'était trop tôt. Et que s'ils devaient recommencer, ils ne recommenceraient pas. Et que par ailleurs, ça a façonné leur identité sexuelle, qu'ils ont essayé de reproduire, par exemple, ce qu'ils avaient vu. Que ça leur a donné des complexes, d'ailleurs, pour un certain nombre d'entre eux.
Adrien Taquet au micro de Culture Média. Pas facile de parler de ce sujet avec ses enfants. La plateforme aide donc les parents à le faire. Je le répète, pour y accéder, voici l'adresse www.jeprotègemonenfant.gouv.fr.
L'actualité média en bref maintenant, une application et un jeu vidéo.
Le jeu vidéo, c'est la nouvelle version d'Animal Crossing. C'est le bien culturel, tenez-vous bien, le plus vendu l'an dernier. Un peu plus d'un million d'exemplaires physiques ont été écoulés selon l'Institut GFK. Loin devant les livres, ceux notamment de Joël Dicker ou de Guillaume Musso. L'application, c'est Telegram, service de messagerie d'origine russe, application la plus téléchargée au monde le mois dernier. Conséquence là du mouvement de panique provoqué par la récente mise à jour de WhatsApp. Beaucoup de ses utilisateurs ont craint que leurs données ne soient utilisées par Facebook, la maison mère de WhatsApp.
Et puis le focus programme du jour, c'est un documentaire particulièrement fort diffusé ce soir sur France 5.
L'enfant du double espoir, documentaire à la fois scientifique, politique, sociétal et avant tout très humain. C'est l'histoire de la famille de César, 5 ans, atteint d'une maladie génétique rare. Ses médecins ne lui donnent que quelques années à vivre. Seule solution, une greffe de moelle osseuse. La meilleure compatibilité possible pour lui serait un frère ou une sœur, mais qui n'est pas encore né. On appelle ça donc vulgairement un bébé médicament.
Une définition d'un bébé médicament ?
C'est un enfant conçu in vitro avec une sélection d'embryons, ce qui permet d'avoir un enfant non seulement sain, sans maladie génétique, mais aussi compatible avec celui qu'il faut aider, en l'occurrence César. Voilà pourquoi on parle d'enfant du double espoir. Ce n'est pas encore autorisé en France, alors le couple est allé en Belgique. C'est là qu'il a pu suivre ce protocole et espérer offrir à César des années de vie en plus. Ce combat, le réalisateur Arnaud Xinte l'a suivi pendant plus d'un an. Un combat qui, dit-il, pose des questions éthiques et qui interroge nos convictions.
L'histoire reste assez pudique. On voulait vraiment que les événements et les personnages parlent d'eux-mêmes. On ne voulait absolument pas dire au spectateur ce qu'il doit penser. Évidemment, on sent ce que nous pensons en tant que réalisateur. C'est notre point de vue. Bon, très bien. Comme le dit notre professeur anglais au début du film, si ça arrivait à vos enfants, qu'est-ce que vous feriez ? Est-ce que vous feriez ça ou pas ? On n'est pas plus militant que ça.
Arnaud Xinte, co-réalisateur avec Stéphanie Thomas du documentaire « L'enfant du double espoir ». C'est passionnant et c'est diffusé dans Le Monde en face ce soir à 20h50 sur France 5.
Et toutes ces infos, évidemment, vous pouvez les retrouver avec d'autres dans la newsletter média d'Europe 1. C'est gratuit. Inscription sur europe1.fr. Merci beaucoup Antoine Janton. Merci beaucoup Louise Bernard. On vous retrouve demain pour les audiences et un nouveau journal des médias.
Salut Philippe.
Dans un instant, dans notre info média du jour, le journaliste Hugo Travers, créateur du média en ligne Hugo Décrypte. Il y a quelques jours, il a relayé les témoignages de jeunes en situation de détresse. On en parle avec lui dans un instant.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Europe 1 se mobilise toute cette semaine pour venir en aide à ceux qui sont particulièrement touchés par la crise sanitaire et économique. Les jeunes dans leur ensemble, les étudiants en particulier. Ils sont des milliers à souffrir de la situation actuelle. Ils suivent leurs cours essentiellement à distance, seuls, dans de petits appartements, et certains finissent par décrocher. Ils ont de plus en plus de mal à trouver des stages ou des emplois, et puis leur vie sociale, mais également amicale et aussi amoureuse, est quasi inexistante. Conséquence, ils sont très nombreux à tomber malades psychologiquement et à rencontrer des difficultés financières. On le voit et ils le disent de plus en plus, en passant notamment par les réseaux sociaux. Bonjour Hugo Travers.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, on vous connaît bien ici. Vous avez créé votre média en ligne Hugo Décrypte il y a 6 ans et désormais vous êtes présent sur de nombreux réseaux, YouTube, Instagram, TikTok, Twitch entre autres. Près de 2,5 millions de followers en cumulé, c'est pas rien. Et ces derniers jours, vous les avez appelés à témoigner ces jeunes de leur situation. Des témoignages recueillis, en voici quelques extraits.
Comment ça va ? Je pense que la réponse est relativement mal.
J'ai une impression de solitude, aucune vie sociale.
Je suis hyper loin de ma famille, de mes amis et je suis toute seule en France.
C'est un sentiment de ras-le-bol en fait, on n'en peut plus.
Énormément d'étudiants qui abandonnent dans ma licence.
On voit un peu tous nos rêves s'effondrer.
Depuis tout petit, je voulais être médecin. Ça m'aura coûté un rêve et... j'en suis fortement déçu. Déçu de moi-même et je me sens minable.
J'ai eu, pour la première fois, des pensées suicidaires.
J'ai plus d'espoir. Plus l'espoir de m'en sortir, plus d'espoir de me dire qu'un jour ce sera fini.
Et je me sens seule. Et en fait, je me rends compte qu'à part ma volonté, plus rien ne me retient de passer à l'acte.
Des témoignages très inquiétants et même alarmants recueillis sur votre compte Instagram. Ils ont été vus et écoutés près de 6,5 millions de fois en 8 jours seulement. Est-ce que ce sont là des cas extrêmes ou au contraire représentatifs ?
C'est des cas représentatifs d'une détresse grandissante. J'aimerais bien que ce soit des cas minoritaires et quelques exceptions. Malheureusement, ce n'est pas le cas et ces témoignages le montrent. Mais au-delà de ça, des études le montrent. Quand on a les études de Santé publique France ou les études d'Ipsos publiées par Le Parisien il y a quelques jours, ils montrent tout simplement qu'il y a des troubles anxiogènes généralisés au sein des jeunes, qu'on a un jeune sur trois qui a déjà pensé à se suicider ou à mettre fin à ses jours. C'est des chiffres du coup qui sont très parlants et que nous, on a essayé d'illustrer à travers ces notes vocales qu'on a nous collectées. C'est très simple. J'ai posté une story sur Instagram en disant: je sais que vous êtes nombreux à vouloir témoigner de la situation et de ce que vous vivez aujourd'hui. Envoyez-nous une note vocale. Dites-nous concrètement comment vous vous ressentez et qu'est-ce que vous sentez aujourd'hui et ce que vous voulez exprimer. On a reçu des milliers de notes vocales et on a essayé de les compiler dans cette vidéo.
Qu'est-ce qui est le plus difficile à vivre pour eux ?
C'est une forme d'isolement, mais en fait qui a pour conséquence beaucoup de choses. Cet isolement, le fait de devoir suivre les cours à distance, le fait de ne pas pouvoir voir autant ses amis, ça entraîne une question de santé mentale qui est très importante et on l'entend beaucoup dans ces témoignages. Ça entraîne une question économique puisqu'on est isolé parce qu'on a parfois perdu son petit job qui nous permettait de payer notre loyer ou autre. Donc c'est une détresse aussi d'un point de vue économique. Un décrochage scolaire, on est isolé, on peut pas voir ses profs, on peut pas voir ses camarades pour aller s'entraider. On se retrouve tout seul devant un cours sur Zoom. Donc cet isolement, il a de multiples conséquences et donc c'est ce qui rend aussi d'ailleurs la réponse à ce problème particulièrement délicate et compliquée, ce qu'il faut essayer de répondre sur toutes ces dimensions-là, la dimension psychologique, économique et scolaire.
Justement, on va parler de la réponse. Dans quelques instants, vous avez l'habitude d'échanger avec votre communauté. Vous aviez déjà reçu autant de messages ou là, c'est vraiment malheureusement une première ?
Non, on a reçu des milliers de notes vocales, de jeunes qui ont pris la peine de nous envoyer ces messages vocaux, ce qui montre aussi le caractère urgent de la situation. Enfin, non seulement le caractère urgent de la situation, le besoin chez les jeunes d'en parler et de faire comprendre que cette situation, selon eux, n'est pas suffisamment entendue, que ce soit dans les médias, que ce soit de la part des différentes personnalités politiques. Et d'ailleurs, nous, ces témoignages, ils sont venus après les annonces d'Emmanuel Macron qui avait annoncé les repas à 1 euro et plusieurs choses, ce qui montre bien que pour énormément de jeunes, ces mesures annoncées ne sont pas suffisantes aujourd'hui.
Je ne vais pas me faire son avocat, mais il a quand même pris la mesure de la souffrance des jeunes en disant « il est dur d'avoir 20 ans en 2020 ». Qu'est-ce que vous répondez à ces jeunes ? Je vais poser ma question de manière plus précise. Quels mots sont utiles à ceux qui se sentent mal, déprimés, angoissés, à ceux qui ont des difficultés financières ?
Quels mots sont utiles ? Moi, je pense qu'il y a au-delà des mots, je pense qu'il y a une question d'acte très concrète et c'est ce que disent beaucoup de jeunes. Moi, je suis pas là pour je ne suis pas un syndicat étudiant ou je suis même pas un porte-parole des jeunes. J'ai la chance d'être très suivi par des jeunes, des étudiants notamment, et d'ailleurs pas que les étudiants qui sont touchés par ça. Moi, j'ai cette volonté, du fait que c'est un problème qui est immense, d'en faire parler, de faire en sorte qu'il puisse y avoir des solutions qui émergent, et les jeunes que j'entends et que je vois sur la chaîne qui m'envoient des messages et qui se discutent, discute me disent, mais en fait, nous, aujourd'hui, c'est pas vraiment des paroles ou des mots qu'il nous faut. C'est pas seulement dire que c'est dur d'être jeune en 2020 ou en 2021 maintenant. C'est au-delà de ça, des actes. Et les mesures qui ont été annoncées par le président de la République ont été saluées par beaucoup de jeunes. Je l'ai vu dans les commentaires. Les repas à 1 euro, c'est quand même quelque chose d'important pour les jeunes. La question, c'est est-ce que c'est suffisant? Et encore une fois, on a eu beaucoup de témoignages qui sont montés que ce n'est pas suffisant.
Alors justement, Hugo Travers, vous dites, je ne suis pas le porte-parole des jeunes, mais de fait, vous l'êtes devenu, combien même à votre corps défendant. On se souvient qu'à 2 jours des élections européennes, c'est à vous que le président Macron avait choisi de donner sa dernière interview pour parler à la jeunesse, qu'on dit abstentionniste à 70%. Et c'est également à ce titre que plus récemment, BFM TV vous a invité, c'était il y a une semaine, pour débattre avec la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement, Sarah El Haïry. Est-ce que le gouvernement en fait assez pour les jeunes? Eh bien, c'est la question que vous lui avez posée. Voici sa réponse.
Quand on parle d'isolement, quand on parle de fait de se sentir seul et pas trouver sa place, c'est comment on accompagne chaque étudiant pour qu'il puisse se mobiliser. La semaine dernière, à peine, on a changé les règles du service civique pour permettre à chaque étudiant de s'engager, de trouver sa place, de rompre son isolement en se sentant utile. Parce que ces étudiants, ils disent aussi, eh bien moi je me sens seul. Je me sens seul après une journée entière de cours à distance. Eh bien, engagez-vous et nous, on est là pour accompagner ces engagements. L'énergie, le moral, l'élan, c'est notre responsabilité collective. Et c'est pour ça que moi, j'apporte une des solutions,
mais ça accompagne
le fait de rendre le service civique accessible à tous.
Mais
que
ça
c'est
accompagne
son moteur. Maintenant, il faut une mobilisation des assos également.
Qu'est-ce que vous êtes dit en écoutant Sarah El Haïry? Vous la pensiez sincère? Vous le pensiez que, justement, ces mots allaient être suivis d'actes?
C'est compliqué parce que ce passage-là, on entend un constat. Oui, les jeunes sont seuls. Bon, là-dessus, on est d'accord, les jeunes sont seuls. Mais quand on parle maintenant et quand on débouche sur la question des solutions, moi, j'étais assez étonné et frappé par le discours de la secrétaire d'État à ce moment-là. Et surtout, j'ai vu dans les réactions que j'étais pas le seul, puisque il y a une forme de décalage quand on parle de jeunes qui tentent de mettre fin à leur jour, qui sont dans une situation de détresse immense, d'avoir un membre du gouvernement qui, face à ces jeunes-là, va dire moi, je dis aux jeunes, mobilisez-vous,
engagez-vous,
le moral, etc. C'est important. La question, c'est que oui, déjà, il y a des jeunes qui se mobilisent, et je veux dire, c'est déjà le cas, et elles n'ont pas attendu d'avoir, ces jeunes n'ont pas attendu d'avoir l'accord ou ce discours du gouvernement pour le faire. Il y a des assos qui se mobilisent, Linky, plein d'assos sur le terrain, mais cette mobilisation, elle doit aussi venir de la part du gouvernement dans ces situations d'urgence, quand on parle encore une fois de jeunes qui tentent de mettre fin à leur jour.
Justement, puisque vous parlez du gouvernement et de ses membres, elle n'est pas la seule, Sarah El Haïry, à vous avoir répondu. Il y a également la ministre chargée de l'enseignement supérieur, Frédéric Vidal. On en parle dans un instant avec vous, Hugo Travers, dans Culture Média.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Europe 1 au soutien des jeunes et des étudiants, c'est une opération à suivre toute cette semaine sur l'antenne d'Europe 1 évidemment, mais également sur europe1.fr et sur les réseaux sociaux avec ce hashtag, le mot dièse, Europe 1 solidaire. Et puis en parallèle, Hugo Travers, notre invité, Hugo décrypte, c'est son site et pas seulement, à l'écoute des jeunes sur YouTube, Instagram, Twitch entre autres. Hugo, vous portez la parole des étudiants et vous essayez de leur apporter des informations et c'est pour cela que vous avez invité la ministre chargée de l'enseignement supérieur, Frédéric Vidal. Long entretien, près de 2 heures, diffusé sur votre chaîne Twitch, avec à la clé des réponses précises, notamment sur l'aide psychologique.
C'est une prise en charge d'au moins 3 séances chez un psychologue, qui sont payées, là aussi, directement au psychologue, sans que vous ayez à faire d'avance. Et à l'issue de ça, le psychologue dit, ok, il faut un traitement plus long, il faut une thérapie plus longue, et dans ce cas-là, vous rentrez dans un parcours de thérapie plus longue. Il faut un psychiatre parce qu'il y a besoin de médicaments et les psychologues ne prescrivent pas de médicaments, ou tout va bien et voilà, ça a fait du bien à la personne de parler. Le processus entier est un processus où c'est l'État qui prend tout en charge.
Belle annonce. Dans les faits, est-ce que c'est déjà mis en place ou est-ce que ça va arriver?
Il y a un certain nombre de mesures là, qui ont été annoncées par la ministre vendredi lors de notre interview sur Twitch, qui vont être mises en place progressivement. Je pense à celle-ci. Je pense à aussi concernant le retour possible au sein des restaurants universitaires pour les jeunes qui vont pouvoir revenir au sein des restaurants universitaires pour déjeuner ou dîner, alors qu'avant ils devaient prendre leur plat à emporter. Donc c'est des mesures, je pense, qui sont d'ailleurs qui ont été saluées. Moi j'ai vu dans les commentaires comme des mesures qui vont dans le bon sens de ce point de vue-là. Pour elle, d'ailleurs, en termes d'exercice, c'était pas forcément l'exercice le plus évident, parce que un direct sur Twitch de 2 heures, qui est quand même assez long, avec du coup des questions qui viennent assez rapidement, notamment du public en direct sur Twitch, c'est un exercice particulier.
On est une émission média. Est-ce que cette interview est préparée comme certaines émissions médias? Est-ce que vous saviez qu'elle allait faire des annonces? Est-ce que ça avait été préparé avec elle auparavant, avec son cabinet?
Moi, en l'occurrence, ce que j'avais dit au cabinet de Frédéric Vidal, c'est que de mon côté, j'hésitais. Déjà, mais ça faisait longtemps que j'hésitais à leur proposer une interview de ce format-là, parce que je me disais, à quoi bon faire une interview si au final, il n'y a pas d'annonce? On va juste, en fait, répéter des éléments qui sont déjà connus et que nous, on aura déjà, de toute façon, évoqué avant sur les annonces faites par le gouvernement. Eux m'ont dit, non, a priori, on n'aura pas d'annonce là-dessus. Après, on s'est dit, on avait eu cette séquence sur BFM TV qui avait déplu à beaucoup de monde, puisqu'il y avait un sentiment de ne pas être écouté. Donc on s'est dit, mais c'est quand même intéressant quand même d'avoir cet échange, ce dialogue, y compris avec des jeunes.
Séquence avec Sarah El Haïry.
Exactement, exactement. Ouais. Et du coup, on s'est dit, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce format. On leur a proposé ce format de plus d'une heure en direct sur Twitch, avec notamment cette séquence d'interview, mais aussi on a fait venir sur le plateau, sur ce studio où on tournait, deux jeunes qui avaient témoigné dans la vidéo de témoignage. Et ça a permis d'avoir ce dialogue-là et cet échange-là. Et au final, du coup, elle a fini par annoncer ces deux éléments-là, qu'on n'avait pas été prévenu que ces annonces allaient être faites.
Comment les médias peuvent-ils aider les étudiants en détresse? De quelle manière?
Logiquement, c'est une question que je me pose à titre personnel avec Hugo Décrypte et avec mon équipe de journalistes. C'est une situation particulière, puisqu'on a une situation on a un positionnement de médias et on est suivi par des jeunes qui sont concernés par ces problèmes-là. Et donc, on se pose la question de, au-delà du fait d'en parler, de sensibiliser et de pousser le sujet avec ces témoignages qu'on a postés, avec cette interview qu'on a fait de membres du gouvernement, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour agir? Je pense que, au-delà de la dimension d'alerter, de sensibiliser, un média, ça a une audience, et en ayant une audience, on peut aussi bouger les choses, faire des choses. Et nous, c'était au tout départ simplement essayer de relayer le plus possible des aides qui peuvent aider les jeunes. Le site soutien-étudiant.info qui permet d'avoir une aide psychologique qui a été lancée par l'organisation Nightline. Et là, concrètement, moi, je réfléchis, et d'ailleurs, à la fin de l'interview avec Frédéric Vidal, j'ai pris une petite demi-heure pour discuter avec ceux qui me suivaient sur Twitch. Il y avait encore à peu près de 20 000 personnes sur le live. Et juste, on s'est posé, on a réfléchi, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour aider les jeunes, au-delà du fait d'en parler? Et là, on n'a pas encore la solution exacte. On va sûrement travailler avec des assos qui sont sur le terrain pour les distributions alimentaires, avec des psychologues, pour essayer de mettre des actions très concrètes en place dans les jours à venir. Et donc, on verra sur quoi ça débouche.
Et je dois dire évidemment que Europe 1 est dans cette même démarche. Dans vos différents messages, vous venez d'en parler, vous relayez l'adresse d'un site internet, soutien-étudiant.info. Pourquoi ce site précisément et qu'est-ce qu'il propose?
C'est un site internet, c'est très simple, qui a été lancé par l'organisation Nightline, qui est une asso par les jeunes, pour les jeunes, avec évidemment le soutien et l'appui de professionnels de santé et de psychologues.
Nightline, ça veut dire ligne de nuit?
Exactement, puisque c'est notamment ils ont une ligne d'écoute qui est ouverte la nuit, là où les jeunes en général sont pas en cours et du coup ont plus de temps pour venir témoigner. Je pense que le sujet le plus important, et c'est d'ailleurs l'objet de la vidéo de témoignage qu'on a postée sur la détresse des jeunes, c'est de faire comprendre que les jeunes ne sont pas tout seuls, que la situation difficile qu'ils peuvent vivre, que la détresse dans laquelle ils sont, elle est partagée par beaucoup de jeunes. Et il n'y a aucun mal à en parler, et c'est même très bien d'en parler pour s'en sortir et pour aller mieux. Donc c'est un peu l'appel à l'aide qu'on a essayé de diffuser, et le site soutien-étudiant.info répond d'une certaine façon à ça, en permettant aux jeunes de s'exprimer.
On est dans ce paradoxe, les jeunes ne sont pas seuls à se sentir seuls.
C'est ça, mais bien sûr.
Et deuxième paradoxe, pardon de vous interrompre, c'est qu'ils regrettent de vivre devant leur écran parce qu'ils se sentent coupés du monde, et ce qui les relie au monde, c'est l'écran.
Ouais, c'est une situation, et d'ailleurs, vous faites bien de le dire, c'est une situation qui est partagée aussi par les moins jeunes. Moi, mon objet, c'est pas de... Parce que ce que je dis aujourd'hui, c'est pas de dire qu'il y a seulement les jeunes qui sont dans cette situation-là. Il y a évidemment toutes les générations qui sont touchées par ces couvre-feux, par ces confinements. Et l'idée, c'est pas de dire que c'est pas le cas.
Sauf qu'il y a une sacrée différence pour les jeunes ou au détriment des jeunes. C'est que quelqu'un qui a son travail, par exemple, qui ne travaille plus en restauration, il a son salaire qui tombe grâce aux aides gouvernementales. Ouais. Mais le petit boulot, on va pas le compenser.
Et c'est tout le débat ces derniers jours qu'on a. Alors ça, c'est un combat depuis longtemps des syndicats étudiants. C'est quelque chose qui est beaucoup en débat. Et sur la question d'un RSA pour les jeunes ou d'une allocation, je sais que la maire de Paris Paris, notamment Anne Hidalgo, a fait des propositions dans ce sens-là, François Hollande aussi. Donc c'est tout un débat, je pense, qui se tient et qui se tiendra encore dans les jours à venir. Et puis au-delà de ça, les jeunes, au-delà de la dimension économique, sont aussi dans une situation où, quand on est en première année d'études et qu'on commence les cours en ligne, en fait, on a, c'est aussi une période où, en théorie, on rencontre des gens, on se fait nos amis, on sociabilise de façon beaucoup plus importante. Or là, évidemment, on se retrouve dans une situation pas évidente pour faire ça.
Nous parlions de YouTube, nous parlions de Twitch, il y a également Instagram et TikTok, réseaux sur lesquels vous êtes présents. Question plus large sur votre travail, les codes varient d'un réseau à l'autre, vous parlez de la même façon sur chaque réseau, vous faites des vidéos spécifiques pour chaque cible, si
c'est vraiment
dire.
Différent selon les plateformes. Et d'ailleurs, le meilleur exemple de ça, c'est, alors, un des exemples en tout cas, c'est la vidéo de témoignage qu'on a postée. On l'a postée sur Instagram, sur Twitter et sur YouTube. Le réseau social où on est le plus suivi, c'est YouTube. On a plus d'un million d'abonnés sur YouTube. Mais la vidéo a fait près de 300 000 vues sur YouTube, alors que sur Instagram, elle en a fait près de 6 millions, plus de 6 millions. Parce que Instagram permet davantage de viralité, de repartage en story ou autre des contenus. Et donc nous, en fait, très concrètement, moi, ma mission et mon objectif avec mon équipe de journalistes, c'est d'essayer de rendre l'actualité accessible aux jeunes et à toutes les générations, mais notamment les jeunes. Et donc, moi, je vois ça quasiment comme un jeu de Go, un espace où il y a des territoires, il faut aller, et c'est un peu sur les différents territoires pour essayer d'amener cette information partout où sont les jeunes. Et évidemment, quand on fait un contenu sur Twitch, ce sera du direct. C'est un format, un temps un peu plus long, on suit des événements directs. On va un peu voir un peu tout ce qui se passe en direct. Quand on est sur YouTube, c'est des résumés d'actualité quotidiens de moins de 10 minutes qui vont donner un débrief d'actu en 10 minutes sur les grandes actus du jour. Sur Instagram, c'est plus court. Ça se lit en une minute directement sur Insta. Et sur TikTok, c'est encore plus court. C'est moins d'une minute. Des vidéos de moins d'une minute, parfois un peu plus créatives en termes de montage. Mais pareil, pour essayer d'informer et rendre accessible.
Merci beaucoup, Hugo Travers, d'avoir été notre invité. Hugo Décrypte, c'est à retrouver sur YouTube, Instagram, Twitch et TikTok. Europe 1, au soutien des jeunes des étudiants. C'est notre opération à suivre toute cette semaine sur l'antenne d'Europe, sur Europe1.fr et également sur les réseaux sociaux avec le hashtag, le mot dièse, Europe 1 solidaire. Culture Média continue à suivre dans un instant Arnaud Poivre d'Arvor à ce micro, le présentateur de l'une des émissions emblématiques de RMC Story. Elle revient avec un inédit, ça s'appelle Non élucidé.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Arnaud Poivre d'Arvor.
Bonjour Philippe.
Vous êtes présentateur et producteur de télévision, on va le dire une fois pour toutes, vous êtes le fils de Patrick Poivre d'Arvor.
Je suis très fier.
Votre actualité, c'est le retour de Non élucidé, l'émission de grandes affaires criminelles sur RMC Story. Nouvel épisode inédit jeudi après-demain à 21h. Je précise RMC Story, mais l'émission avait démarré sur France 2 en 2008. Quel est le concept de Non élucidé ?
Alors, c'était dans le titre, hein, bien sûr, c'est une émission qui s'intéresse aux affaires non résolues et elle a été créée effectivement avec l'idée de pouvoir aider les familles qui sont dans un désarroi total puisque un de leurs proches a été tué dans des conditions affreuses et ils n'ont pas de réponse. Donc l'idée est d'être un peu le relais de leur histoire et de faire cette émission en compagnie d'un ancien grand flic qui s'appelle Jean-Marc Bloch, qui a une expérience évidemment très grande.
C'est l'ancien patron du
RCPJ de Versailles, ouais. 35 ans de police judiciaire. C'est donc un duo inédit avec un journaliste et un ancien grand flic. Et quand l'émission a été reprise par RMC Story, elle a été bonifiée avec l'arrivée d'une avocate pénaliste qui s'appelle Negar Aheri.
Vous parliez de cette émission a été créée pour les familles, elle est quand même créée pour les téléspectateurs. Ça s'appelle Non élucidé. Par définition, on reste sur sa fin puisque l'affaire est non élucidée. Qu'est-ce qu'on apprend alors ?
En fait, on m'a toujours parlé de cette histoire de frustration à la fin de l'émission. D'abord, il y a des grands films et des grands livres qui ont une fin ouverte. Ensuite, effectivement, l'idée, c'est de mettre le téléspectateur dans la peau de l'enquêteur. Et donc de lui proposer les différentes pistes qui ont été envisagées dans l'enquête et pour qu'il se fasse sa propre idée. En fait, c'est le principe de l'énigme. Et donc les gens sont forcément attrapés par cette histoire et ils se posent des questions comme les enquêteurs se le sont posées.
Quelle différence avec Faites entrer l'accusé qui elle aussi est passée de la 2 à RMC Story ?
Donc Faites entrer l'accusé. Et en fait, quand on a créé en 2008 l'émission, c'est justement... pour se différencier de ce qui existait par ailleurs sur la même chaîne. C'est une affaire qui... Donc, une émission en fait d'entrée l'accusé qui s'intéresse à des affaires bouclées, qui ont été jugées. Donc, elle s'intéresse bien évidemment à toute l'enquête, mais aussi au procès.
Et puis, autre différence, vous ne présentez pas l'émission depuis un bureau, mais sur le terrain, sur les lieux mêmes du crime.
J'ai oublié de le signaler. On est les seuls à le faire. On se déplace. Et effectivement, c'est passionnant et très intéressant parce qu'on se rend compte de la configuration des lieux et on peut mieux appréhender l'affaire et l'enquête.
Là, par exemple, on voit sur une plage et sur des falaises, vous êtes en Bretagne, à Saint-Quay-Portrieux, et vous revenez sur l'affaire Véronique Duchesne-Meunier. Est-ce que vous pouvez résumer les faits ?
Alors, on est en octobre 2010, début octobre 2010. Véronique Duchesne-Meunier va acheter des cigarettes, dit à son mari qu'elle va juste acheter des cigarettes en début d'après-midi, et elle ne rentre pas chez elle. Donc, évidemment, son mari finit par s'inquiéter, pas tout de suite d'ailleurs, ce qui va étonner les enquêteurs. Il va signaler sa disparition le lendemain matin aux gendarmes, et on finira par retrouver le corps de Véronique Duchesne-Meunier quelques temps plus tard, à 15 km de Saint-Quay-Portrieux, sur une plage, rejetée par la mer. On se posera la question de savoir si elle s'est suicidée, si c'est un homicide. Et on découvre en fait qu'il y a des hématomes suspects sur son corps et qu'elle a été étranglée.
Alors, dans cette affaire, Jean-Marc Bloch, vous l'avez dit, l'ancien patron du SRPJ de Versailles, fait avec vous un point sur l'enquête. On est au premier tiers de l'émission et il revient sur ce détail intrigant. Avant de retrouver son corps sans vie sur une plage, on a d'abord retrouvé à peu près au même endroit son sac à main avec ses papiers, ses clés, ses médicaments, mais sans son porte-monnaie ni ses cartes bleues extraits.
Je précise par ailleurs, Jean-Marc, qu'on ne retrouve dans ce sac ni argent, ni portefeuille, ni porte-monnaie.
Oui, Arnaud, et je pense que ce sac, avant d'être rapporté par le pêcheur qui l'a découvert à la gendarmerie, a été trouvé par quelqu'un d'autre qui l'a partiellement vidé de son contenu après l'avoir ouvert. Il s'est notamment emparé de l'argent qui s'y trouvait. Je pense que cet homme ou cette femme a des révélations importantes à faire. Il est peut-être témoin de quelque chose d'important. Je suis convaincu que s'il se manifestait, aussi bien les enquêteurs que les magistrats feraient preuve de beaucoup d'indulgence et seraient peut-être même prêts à fermer les yeux sur ce menu larcin.
Alors le meurtre a eu lieu en 2010, il y a 11 ans, il vous en parle comme si c'était la semaine dernière.
Oui, bien sûr. Alors d'abord, c'est quand même une enquête approfondie. Nous, on se penche sur le dossier, c'est un ou deux mois d'enquête. La production d'émission s'étale sur 4 à 5 mois. Ouais. Donc évidemment, on connaît les moindres détails de l'affaire. Là, ce qui est intéressant de dire, et c'est vrai que j'ai oublié de le signaler au début, c'est que l'objectif de l'émission, c'est aussi de réveiller les mémoires et de susciter de nouveaux témoignages.
Donc vous espérez que ça va se faire après le jeudi, donc dès le vendredi matin. Est-ce qu'un dossier a déjà été rouvert grâce à votre émission ?
Alors, plusieurs dossiers. Il faut savoir que systématiquement, après la diffusion de l'émission, les services d'enquête reçoivent des coups de téléphone. Certains témoins se manifestent. L'émission de la semaine dernière, notamment, moi j'ai eu les services d'enquête le lendemain de la diffusion et ils m'ont dit qu'ils avaient eu deux ou trois témoignages intéressants. Donc ça prouve que cette émission est utile.
Pardonnez-moi parce qu'il nous reste peu de temps avant de marquer une toute petite pause. Est-ce qu'il y a déjà des crimes qui ont été élucidés grâce à vous ?
Il y a deux affaires en particulier, notamment l'affaire Stéphane Dietrich qui remonte à 1994 et il se trouve que l'émission a permis à deux personnes de se manifester et a permis l'arrestation d'un homme qui a été jugé et condamné.
Ce qui est extraordinaire dans cette émission, c'est que non seulement vous faites parler les témoins, mais vous faites également parler les suspects qui parlent à visage découvert. On voit ça avec vous, Arnaud Poivre d'Arvor, Culture Média continue.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Arnaud Poivre d'Arvor, qui présente Non Élucidé, l'émission de grandes affaires criminelles sur RMC Story. C'est jeudi à 21h avec cette affaire. J'en parlais, ce qu'il y a d'assez extraordinaire dans cette émission. On voit un témoin, Thierry Meunier, qui est le mari de la victime et qui témoigne, qui raconte cette matinée-là, cette journée-là, pendant laquelle il constate la disparition de son épouse, ensuite téléphone à la police avec des circonstances que je ne vais pas raconter ici. Au cours de l'émission, vous dressez le portrait de celui qui va devenir l'un des suspects, sinon le principal suspect. Et là, on découvre que c'est lui, Thierry Meunier, le mari de la victime. Il parle, toute la famille de son ex-épouse, Véronique, l'accuse, sa sœur et ses deux filles.
Il cherchait toujours à faire les esbroufs, machin. Pour moi, ça cache quelque chose, quoi.
Pour moi, c'était un acteur. Tout était monté pièce par pièce. Il a cette capacité vraiment à vous faire croire ce qu'il veut, en fait.
Les gendarmes se penchent maintenant sur les relations amoureuses de Thierry Meunier. Ses anciennes compagnes sont entendues. Et l'ensemble de ses auditions noircit encore un peu plus le portrait de l'homme.
Cet homme utilise en réalité les femmes et les sentiments que ces femmes ont envers lui pour pouvoir leur soutirer de l'argent.
Alors quand on entend tout ça, on se dit, on a coupé évidemment, on dit que c'est lui le meurtrier, en tout cas c'est vraiment un portrait à charge. Et pourtant ce qui est extraordinaire, c'est que Thierry Meunier a accepté de vous donner une interview à visage découvert. Par quel tour de force avez-vous réussi à le convaincre ?
Bah, c'est évidemment le travail de la journaliste réalisatrice, de la rédactrice en chef, elles se montrent suffisamment persuasives. Ensuite, c'est l'image de l'émission. Cette émission existe, on l'a dit, depuis 2008. Les avocats ont tendance à dire à leurs clients de parler. Lui n'a pas de souci là-dessus. Il est témoin assisté dans cette affaire. C'est vrai qu'il a eu un comportement assez étrange. Mais pour lui, il n'y a aucun problème à parler puisqu'il se sent totalement innocent.
Ouais, parce qu'au départ, on imagine qu'il est seulement le mari éploré. On a presque peur pour lui que ça se retourne.
Voilà, ce qui est assez curieux, c'est qu'il faut savoir aussi que 2 mois après le meurtre, il va refaire sa vie avec une femme. Donc voilà, les apparences sont contre lui, mais il ne s'agit que d'apparences.
Parfois les apparences, mais c'est là où c'est absolument extraordinaire. On n'arrive pas à croire qu'il soit le coupable et on n'arrive pas à croire qu'il ne soit pas le coupable. Et on repart, comme vous le disiez, avec ses doutes. Et ça allait être ma question suivante. Est-ce qu'il y a un cahier des charges, ou plutôt lequel est-il de non élucidé ? Comment choisissez-vous vos affaires ? Elles doivent cocher quelles cases ?
Il faut qu'il y ait suffisamment d'éléments à raconter, suffisamment de pistes à développer. Effectivement, quand on construit l'émission, c'est quand même 90 minutes, ce qui est quand même assez long comme format. Il faut qu'il y ait suffisamment de rebondissements. Donc voilà, ce sont des histoires qui doivent être riches pour pouvoir les raconter.
Et il faut que les gens acceptent de parler. Il y a quelques années, vous aviez traité l'affaire Edwige Alessandri. Elle a été condamnée pour le meurtre de son mari. Un directeur d'hypermarché, je vais essayer de résumer, retrouvé mort dans son lit, tué par une balle de fusil de chasse. Son épouse parle d'un cambriolage, mais il n'y a aucun élément qui atteste de ce cambriolage. L'épouse est d'abord évidemment suspectée, puis ses 2 fils. Quelques mois plus tard, l'un des fils accuse sa mère en garde à vue avant de revenir sur ses propos. Pourquoi j'en parle ? Parce qu'elle a été condamnée pour le meurtre de son mari et, à la suite de quoi, elle a accepté de témoigner à visage découvert. Comment c'est possible ?
Elle a été condamnée 3 fois, figurez-vous. Mais elle a déposé une requête en révision. Elle clame son innocence depuis le début. Elle accepte de parler parce que, pour elle, évidemment, l'enquête a été menée à charge contre elle. Elle a demandé donc une contre-enquête à un enquêteur privé qui, a priori, prouve que ce qui a été...
J'avoue, je n'ai pas vu l'émission. Ouais. Elle parlait en prison ou elle parlait en liberté ?
Non, elle a été libérée depuis. Donc oui, elle parlait librement.
Alors, vous avez également traité l'affaire Omar Radad. Je rappelle, c'est ce jardinier qui avait été accusé d'avoir tué l'héritière Ghislaine Maréchal. C'est la fameuse inscription sur le mur « Omar m'a tué ». Condamné puis gracié. Vous dites qu'il reste toutefois un sérieux doute sur sa culpabilité.
Ah oui, moi j'en suis persuadé. C'est une affaire complètement incroyable si elle s'est passée dans un climat particulier. Et effectivement, cet homme qui avait du mal à se défendre, puisqu'il ne parlait pas très bien français, voilà, c'est franchement, moi je pense qu'il y a des zones d'ombre sur cette affaire, comme dans beaucoup d'affaires. Et donc là, pour le coup... Il a été jugé, mais pour moi, elle reste quand même non élucidée.
Puisque vous parlez de zone d'ombre, est-ce qu'il n'y a pas aussi un point de une zone d'ombre, de point de droit ? Je croyais que quand une affaire était jugée, on n'avait pas le droit de remettre en cause une décision de justice.
Non, mais on ne la remet pas en cause. L'idée, c'est de pouvoir laisser la personne s'exprimer et si elle clame son innocence, elle a tout à fait le droit de le faire.
Comment vous travaillez des recherches ? Quelles recherches faites-vous pour apporter des éléments nouveaux à une enquête qui sont déjà extrêmement fournis.
Oui, bah alors c'est vrai qu'on a le temps, donc ça c'est formidable. On travaille avec les avocats, parfois aussi avec les enquêteurs. On a accès à beaucoup d'informations. Il faut que, on ait le plus de détails possible. Il ne s'agit pas de raconter n'importe quoi et d'avoir simplement accès à des coupures de presse. Il faut qu'on aille au-delà et effectivement pouvoir... C'est ça qui me plaît, c'est qu'à la suite souvent de la diffusion de l'émission, les enquêteurs, les services d'enquête nous saluent et saluent notre travail parce qu'il est complet.
Vous avez dit à Télé Loisirs, on prend du temps pour travailler sur les affaires. Vous l'avez dit, 4 à 6 mois de tournage. Vous ajoutez, on se situe dans les émissions haut de gamme. Oui. C'est quoi une émission bas de gamme ?
Je ne vais pas citer les concurrents, mais il y en a un certain nombre quand même.
Non, mais décrivez-les. C'est quoi ? Je sais que vous n'allez pas citer. C'est quoi une émission bas de gamme ?
Des émissions qui sont très voyeuristes, qui sont... Faites assez rapidement, souvent par des journalistes qui n'ont pas d'expérience, qui ne connaissent pas suffisamment bien la thématique. Des émissions qui sont sensationnalistes exclusivement. Il y en a pas mal sur les antennes. Et ouais. Je pense que nous et faites entrer l'accusé.
D'un mot, Non élucidé avait été lancé en 2008 sur la 2, a été retiré de l'antenne en juin 2015. Pourquoi ils l'ont retiré de l'antenne ?
En fait, pour des histoires budgétaires, tout simplement.
Et alors, comment se fait-il que RMC Story ait les moyens que France 2 n'avait pas ?
Parce qu'ils croyaient en cette marque, justement, et ils ont décidé d'investir suffisamment, comme ils l'ont fait aussi pour Faites entrer l'accusé, et je les salue.
Merci beaucoup Arnaud Poivre d'Arvor. On entend le générique de Non élucidé, l'émission des grandes affaires criminelles sur RMC Story. Ça sera jeudi à 21h avec cette affaire et peut-être les suites dans la semaine. Merci d'avoir été avec nous en direct. Culture Média qui continue. Rappel des titres à 10h et puis on va recevoir Eva Rock pour son zapping du lendemain avec un film documentaire très émouvant sur un agriculteur en détresse. Et Bertrand Chamerois pour son écran de veille. Je vais voir comment il est habillé. C'est spécial grand froid. Ensuite, la chanteuse Julie Zenati, refaire danser les fleurs tout en programme. C'est son nouvel album. Et puis dans les indispensables, un monde interdit à la tristesse dans un roman, et puis un huis clos noir et blanc à succès. Culture Média continue.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes férus de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, ou vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.